VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 24 février 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Eric Manirakiza.
Actualité oblige, nous commençons tout de suite par l'Ukraine, où le président russe Vladimir Poutine vient d'annoncer une opération militaire, dénoncée aussitôt par le président américain Joe Biden, entre autres leaders occidentaux.
Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi une opération militaire en Ukraine pour défendre, a-t-il dit, les séparatistes de l'est de ce pays. Lionel Gahima nous donne les détails.
Dans une déclaration surprise à la télévision, peu avant 3h GMT, Vladimir Poutine a déclaré « J'ai pris la décision d'une opération militaire ». Il a dénoncé, une fois encore, un génocide orchestré, selon lui, par l'Ukraine dans l'est du pays, arguant de l'appel à l'aide des séparatistes annoncés dans la nuit et de la politique agressive de l'OTAN à l'égard de la Russie et dont l'Ukraine serait l'outil. M. Poutine s'est adressé aux militaires ukrainiens, leur disant « Je vous appelle à déposer les armes », assurant qu'ils pourront alors quitter le champ de bataille sans entrave. Il a souligné ne pas vouloir d'occupation de l'Ukraine, mais de sa démilitarisation. Puis, il s'est adressé à ceux qui tenteraient d'interférer avec nous. Ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira des conséquences que vous n'avez jamais connues. Je suis sûr que les soldats et officiers de la Russie rempliront leurs devoirs avec courage, a encore dit le président russe. La sécurité du pays est garantie. Il n'a pas donné de précision quant à l'ampleur de l'opération militaire, si elle allait se limiter à l'est de l'Ukraine ou si elle serait plus large.
Les sirènes d'avertissement anti-bombardement ont retenti à Kiev et de puissantes explosions étaient entendues ce matin à Kiev, Odessa dans le sud, Kharkiv à la frontière russe et dans l'est de l'Ukraine après l'annonce de Vladimir Poutine. Le président ukrainien a déclaré que la Russie attaquait les infrastructures militaires de son pays ainsi que ses gardes frontières. Il a cependant demandé à son peuple de ne pas céder à la panique, prédisant la victoire. Et son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a annoncé le début d'une invasion de grande ampleur de la Russie. De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant, a tweeté M. Kuleba. Le ministère ukrainien de l'infrastructure a annoncé dans la foulée la fermeture de l'espace aérien, invoquant un haut risque pour la sécurité dans un communiqué sur son site.
Ici à Washington, le président américain Joe Biden a dénoncé hier soir l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine après le discours de M. Poutine dans un communiqué. M. Biden a dit « Le président Poutine a choisi de lancer une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques », ajoutant « La Russie seule est responsable de la mort, de la destruction que cette attaque provoquera ».
Le président Biden, qui s'est entretenu avec son homologue Volodymyr Zelensky, s'exprimera aujourd'hui sur les conséquences pour la Russie. Il précise également qu'il rencontrera le même jour ses homologues du G7. Hier, M. Biden avait annoncé des sanctions contre l'entreprise chargée d'exploiter le gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui estimé hier devant l'Assemblée générale des Nations unies que le monde faisait face à un moment de péril. Ce conflit doit s'arrêter maintenant, a-t-il dit. L'Ukraine demande à la Russie et à l'ONU de mettre un terme à la guerre, a lancé Sergi Kislytsia, l'ambassadeur ukrainien auprès de l'organisation.
Appeler Poutine, appeler le ministre des Affaires étrangères Lavrov pour stopper cette agression, a exhorté Kislytsia. Et en s'adressant à son homologue russe Vassili Nebenzia, « Ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire », a rétorqué M. Nebenzia lors d'un vif échange entre les deux hommes.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a averti que ce conflit déclenché par la Russie Seul agresseur pourrait se traduire par une nouvelle crise de réfugiés avec jusqu'à 5 millions de personnes supplémentaires déplacées. Nous sommes en 2022 et nous ne reviendrons pas à une époque d'empire et de colonies ou à l'URSS, a fait valoir Linda Thomas Greenfield. Nous avons avancé et devons veiller, comme l'a dit lundi le Kenya au Conseil de sécurité, à ce que les braises des empires morts n'enflamment pas de nouvelles formes d'oppression et de violence.
L'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière, a de son côté dénoncé hier soir le mépris affiché par la Russie à l'égard des Nations Unies. L'annonce par le président Poutine d'une opération militaire en Ukraine est intervenue au moment même où le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait sur la question de la crise entre l'Ukraine et la Russie. L'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a lui affirmé que son pays ciblait la junte au pouvoir à Kiev. C'est une citation, et non pas le peuple ukrainien.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a condamné ce qu'il a qualifié d'attaque téméraire et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, avertissant que cette agression mettait en péril d'innombrables vies. Les alliés de l'OTAN vont se réunir pour faire face aux conséquences des actions agressives de la Russie. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible. L'OTAN fera tout ce qu'il faut pour protéger et défendre tous les alliés, a ajouté Stoltenberg.
L'opération russe en cours dans plusieurs villes d'Ukraine vise à détruire l'État ukrainien, s'emparer de son territoire par la force et établir une occupation, a estimé dans un communiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Kiev a également appelé la communauté internationale à agir immédiatement. Seules des actions unies et fortes peuvent arrêter l'agression de l'Ukraine par Vladimir Poutine, ajoute ce texte.
Le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 dollars ce jeudi pour la première fois en plus de 7 ans, suite à l'annonce du président russe Vladimir Poutine de son opération militaire en Ukraine, alors que les craintes d'un conflit à grande échelle en Europe de l'Est s'intensifient.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé hier la libération immédiate de 4 membres de la Légion étrangère française opérant pour la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Ils ont été arrêtés lundi et accusés sur les réseaux sociaux de tentatives d'assassinat contre le président centrafricain, alors que les tensions se multiplient entre Paris et Bangui. L'ONU et la France ont dénoncé ce qu'elles ont qualifié de grossièrement manipulation. Nani Talani fait le point.
Dans un communiqué, le patron de l'ONU appelle le gouvernement de Bangui à libérer sans condition et sans délai ses personnels de la MINUSCA. Ces membres de la MINUSCA bénéficient de privilèges et d'immunités qui leur sont accordés, a ajouté Antonio Guterres, en notant que la procédure établie entre l'ONU et la Centrafrique en cas de soupçon d'infraction concernant des personnels onusiens n'avait pas été respectée. Le gouvernement centrafricain a ouvert mardi une enquête après l'arrestation de 4 militaires devant l'aéroport de Bangui lundi, alors qu'ils accompagnaient un militaire français de la MINUSCA au même endroit où devait passer le convoi du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Selon le procureur de Bangui, les 4 légionnaires circulaient à bord d'un véhicule banalisé, sans sigle de l'ONU.
En Guinée-Bissau, l'ex-premier ministre Domingos Simeus Pereira a été interdit de quitter le pays en raison d'un contrôle judiciaire dans une enquête sur une tentative de coup d'État l'an dernier. Les détails avec Claire Morégibourg.
Domingos Simoes Pereira est sous contrôle judiciaire depuis mardi, a affirmé le procureur de la République, Bakary Biaye. Selon lui, cette mesure de coercition a été prise car l'Assemblée nationale tarde à répondre à la demande de la levée de l'immunité de M. Pereira et compte tenu du danger que pourrait représenter sa sortie du territoire sur l'enquête. Monsieur Pereira est accusé, alors qu'il était Premier ministre, d'avoir permis un décaissement de 5 millions de dollars en faveur d'hommes d'affaires bissau-guinéens pour qu'ils paient des dettes dues à des banques locales. Il est également cité dans une tentative de coup d'État présumée contre le président Ombalo le 12 avril 2021. Chef de l'ancien parti au pouvoir, le PAIGC, M. Pereira était l'adversaire du président Umaro Sissoko Embalo au second tour de l'élection présidentielle en janvier 2020, dont il conteste les résultats.
Au Burkina Faso, le bilan de l'explosion accidentelle d'une mine d'or dans le sud-ouest du pays s'est alourdi à 63 morts, ont indiqué les autorités, précisant avoir procédé à une arrestation. Rosine Monezero.
Nous avons 63 morts et une quarantaine de blessés, a déclaré Alpha Compaoré, procureur de la République de la ville de Gaoua. L'explosion a eu lieu dans un marché de mineurs où se trouvent des produits dangereux interdits ou prohibés par la loi, comme la cyanure ou la dynamite, a-t-il dit, ajoutant que certaines maisons ont été rasées par l'explosion. Il a déclaré qu'une personne a été arrêtée et pourrait être accusée d'homicide involontaire. Nous espérons que cette personne sera en mesure de fournir une explication sur les circonstances et les causes de l'explosion, a-t-il déclaré. Le gouverneur de la région, Emmanuel Zongo, a annoncé la fermeture de la mine jusqu'à nouvel ordre et a exhorté les mineurs et la population locale à travailler honnêtement avec les enquêteurs. L'exploitation minière légale génère environ 70 tonnes d'or par an, ce qui en fait la première exportation du pays et génère, selon les chiffres officiels, près de 15 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects.
Les sports, à présent, avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaît tous les 12 pays qualifiés pour la CAN féminine Maroc 2022. Les derniers matchs du dernier tour retour des éliminatoires se sont disputés hier. Les championnes en titre, les Nigérianes, ont battu les Ivoiriennes à Abidjan 1-0. Après leur victoire 2-0 à l'aller, la vice-championne sud-africaine sera aussi de la partie. Les Bayana Bayana ont accroché l'Algérie chez elle 1-1. Après avoir gagné 2-0 à l'aller, la Tunisie s'est inclinée 3-2 en Guinée équatoriale, mais se qualifie grâce à sa victoire 5-0 à l'aller. Le Cameroun s'est contenté d'une courte victoire 2-1 devant la Gambie, suffisant pour voir la phase finale. Après sa victoire 8-0 à domicile à l'aller, idem pour le Burkina Faso, vainqueur de la Guinée-Bissau 1-0. Après son carton 6-0 à l'aller, 2-1 pour le Togo qui a battu le Gabon à Libreville. Le Burkina Faso, le Togo, le Botswana et le Burundi vont donc découvrir la compétition prévue au Maroc du 2 au 23 juillet 2022. Les autres pays qualifiés sont le pays hôte, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Zambie et le Sénégal. Ici aux États-Unis, l'équipe nationale féminine de football a obtenu un versement de 24 millions de dollars et une promesse d'égalité salariale dans le cadre d'un règlement historique avec l'US Soccer, entendez la Fédération américaine de football. Le point avec Nanit Talani.
C'est une victoire pour le football féminin américain à l'issue d'un match qui a duré près de 3 ans. US Soccer, la Fédération américaine de football, s'est engagée à verser un salaire à taux égal à partir de maintenant pour les équipes nationales féminines et masculines lors de tous les matchs amicaux et tournois. Cette annonce fait suite à un accord trouvé entre la fédération et un groupe de joueuses. La joueuse Alex Morgan, apparaissant aux côtés de la présidente de US Soccer, Cindy Parlow-Korn, salue cette avancée majeure.
C'est une grande victoire pour nous, pour le sport féminin, pour les femmes en général, et c'est un moment que nous pouvons tous célébrer maintenant.
Avant cet accord, les footballeurs de l'équipe nationale étaient mieux payés que leurs homologues féminines. 28 joueuses de l'équipe nationale féminine américaine avaient alors déposé un recours collectif contre ce qu'elles qualifient de politique discriminatoire de US Soccer. L'accord doit mettre fin aux poursuites engagées et porte sur 24 millions de dollars. Pour Megan Rapinoe, elle-même ancienne internationale, 190 sélections, c'est un jour nouveau pour le football féminin américain.
Les joueuses qui vont suivre auront une bien meilleure capacité à jouer. Elles seront donc probablement meilleures que nous l'avons jamais été. Et c'est un peu le but.
Avec 4 victoires en Coupe du Monde et autant de médailles d'or aux Jeux Olympiques, l'équipe nationale féminine de football des États-Unis est la plus titrée de l'histoire du sport chez les femmes.
Merci, Nanita.
Merci à Nanit et bien entendu à Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, l'on a constaté depuis plusieurs jours une hausse des prix des denrées de première nécessité et de grande consommation. Acheteurs et vendeurs se plaignent sans connaître les véritables raisons de cette hausse. Les détails avec Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan, qui s'est rendue sur différents marchés de la capitale économique ivoirienne.
C'est dur pour le panier de la ménagère, d'abord à Djamé au marché Gouro. Des femmes venues faire les courses témoignent de la hausse des prix des denrées alimentaires.
Tout a augmenté, l'huile, même tout a augmenté. C'est pas normal, on peut plus manger, comment on va faire? Tout a augmenté le marché. Vraiment, pour 5000 francs, les chassés, nous, on peut même faire 30. C'est pas normal.
Voilà le peu de marché qui est fait. L'argent même prévu n'a pas suffi. Donc, à repenser un peu à nous qui sommes en bas. C'est pas tout le monde qui arrive à s'en sortir.
Les vendeurs également se plaignent.
Le riz 5x5 qui était à 12 500, aujourd'hui c'est arrivé 15 000 et à 14 500 le riz là. Avant on payait à 11 000, aujourd'hui 13 250 en gros. Et qui me dit qu'on vend les paquets à 1 250, aujourd'hui c'est arrivé 1 700. En tout cas, il n'y a pas de clients, c'est compliqué.
Au marché de la GESCO de la commune de Yopougon, c'est le même constat, témoignage. Boré Rosalie est commerçante.
Non, on s'en sort pas. On ne sait même pas comment on va servir les clients.
Angèle Kokoré est-elle aussi venue faire son marché?
Tu envoies 5 000 francs, c'est comme 2 000. Tu ne vois pas ce que tu as payé, et c'est dû.
Au marché de Port-Beaudeux, nous avons rencontré cette dame qui venait d'acheter 1 litre d'huile dans une boutique. Elle n'en revient pas de la hausse actuelle.
J'ai acheté de l'huile, mais le prix a trop augmenté. L'huile, là, au lieu de 1 000 francs, 1250, passé jusqu'à 1 300, 1400.
Un vendeur de la viande de bœuf témoigne.
Cette viande de bœuf, ici, on fait ça à 2800. Ça fait cause. Sinon, nous-mêmes, on prend à 2500 à l'abattoir. Ah, les clients se plaignent que 2800, c'est trop bon. Et le pas de soie, et puis nous aussi, on pas de soie.
Face à cette inflation, le président ivoirien est monté au créneau Alassane Ouattara pour faire une déclaration à la télévision nationale.
Nous avons, avec le premier ministre, décidé que les ministres aillent sur le terrain et que nous puissions avoir également une réunion avec le groupement des consommateurs pour essayer de prendre des mesures, essayer de contenir ces augmentations de prix.
Du côté des consommateurs, Soumaoro Ben Mfali, président de SOS Vichère, lance cet appel.
Je leur demande vraiment de pratiquer un prix social de telle sorte que les consommateurs puissent ressentir moins les effets.
En attendant de trouver une solution à la cherté de la vie, vendeurs et acheteurs se renvoient la balle et lorsque le panier de la ménagère se vide, les effets sont ressentis dans toutes les maisons. Delphine Bowies, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Inauguré en grande pompe, le nouveau stade du Sénégal qui porte le nom de l'ancien président Abdoulaye Wade est déjà source de certaines polémiques car les festivités sont intervenues dans une période de fortes tensions, notamment syndicales. Et pour certains, les priorités sont ailleurs. Un avis loin de faire l'unanimité, nous dit notre correspondant à Dakar, Sedina Abagueye.
À Djamnyadio, les infrastructures de grande envergure sortent de terre au fil des ans, mais les villages situés dans la périphérie manquent de tout, notamment d'infrastructures scolaires. Moussa Kanouté, habitant de Djamnyadio, estime que l'investissement fait dans le stade aurait pu soulager le secteur éducatif.
L'éducation ne marche plus, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et les grèves n'en finissent plus, sans oublier les nombreux abris provisoires dans le pays. Et même ici à Djamnyadio, pendant ce temps, on prend des dizaines de milliards pour construire un stade alors qu'on a déjà des stades. Et je pense qu'il aurait été mieux de les réfectionner. Il fallait surtout gérer les problèmes de l'enseignement, faire cesser les grèves, construire des salles de classe pour remplacer les abris provisoires avant de penser à construire ce stade. Les parents d'élèves sont fatigués car leurs progéniture ne peuvent pas suivre les cours convenablement.
Pour Madi Kan, par contre, le sport a valu beaucoup de satisfaction au Sénégal et il est donc normal que le pays dispose enfin d'infrastructures sportives de haut niveau.
Je pense aujourd'hui qu'on peut dire que le Sénégal fait partie des plus grandes nations sportives, sans pour autant exagérer. Donc c'est tout à fait logique qu'on ait des infrastructures de qualité à la hauteur de notre dimension sportive. Et il y aura toujours des critiques de part et d'autre. Mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était un besoin, n'est-ce pas? Beaucoup de gens se sont battus pour qu'il y ait aujourd'hui un stade et le président l'a fait. Donc peut-être qu'il y aura des priorités ailleurs et qu'il faudrait aller se ressourcer peut-être ailleurs. Mais le stade pour moi était un besoin, n'est-ce pas? C'est tous les Sénégalais qui vont en bénéficier.
De son côté, Boubacar Konté estime que la meilleure façon de montrer l'utilité du stade du Sénégal est de relever le défi de l'entretien et de la gestion. Pour lui, un investissement de cette ampleur ne devrait pas être négligé.
Il faut qu'on donne une grande importance à la gestion du stade. J'ai entendu parler d'un budget annuel de 800 millions pour l'entretien du stade. Ça devrait permettre de bien prendre soin de ce joyau et nous exhortons les autorités à en faire une priorité car cet investissement sera nul s'il n'est pas bien pris en charge sur tous les plans.
Le stade du Sénégal, qui a été inauguré ce 22 février 2022, a coûté environ 156 milliards de francs CFA. Pour certains, les priorités sont autre part dans un pays qui a un déficit d'infrastructures, notamment scolaires, mais pour d'autres, c'est une infrastructure plus que nécessaire pour un pays de sport comme le Sénégal. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Stade et football encore, au Gabon, coup dur pour le football. Il n'y a plus de club en Ligue des Champions tant que le championnat n'est pas relancé. C'est une décision de la Confédération africaine de football, mais derrière cette décision de la CAF, c'est tout l'avenir d'un football gabonais qui se joue. Depuis l'apparition du coronavirus, les stades sont fermés aux joueurs suite à un arrêté du gouvernement interdisant les rassemblements publics. Les footballeurs sont privés de compétition nationale et les installations héritées de l'organisation par le Gabon des Coupes d'Afrique des Nations 2012 et 2017 sont en train de rouiller sur place au grand désarroi du public sportif, nous dit de Libreville notre correspondant Ismaël Obiangze.
Franck Domingo a dirigé les travaux de construction du stade d'Oyem. Dans l'une de ses déclarations, il parlait à l'époque d'un projet promoteur mis à la disposition des populations de la ville située à environ 600 km au nord du Gabon.
Le fait d'avoir mis ce stade situé à 17 km de la ville d'Oyem va permettre de développer tous les villages qui sont tout autour parce que à partir de ce stade, nous avons amené de l'eau, de l'électricité.
Une annonce qui n'a pas résisté à la dure réalité des faits. Entre la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par le Gabon en 2017 et maintenant, les rêves des populations vont de la désillusion à la déception. Vincent Essonmengo est un notable de la ville d'Oyem.
Lorsque on fait un stade qui répond aux critères de la CAN, comme celui qu'on est allé faire à 16-17 km là-bas, c'est un gâchis terrible.
La dégradation des stades qui ont abrité les deux CAN du Gabon est devenue un sujet de moquerie et d'autodérision des activistes sur les réseaux sociaux. Naftali Nalik, un jeune influenceur, diffuse une courte vidéo montrant le délabrement avancé des installations du stade de l'amitié sino-gabonais de Libreville.
Le stade est abandonné, Seigneur. On dirait qu'il y a eu la guerre ici. Tous les habitants ont fui pendant des années. Des bouteilles d'eau avec des sachets au sol, des feuilles de manioc. À croire que c'est devenu un restaurant ici.
Faute de réhabilitation et fermée au championnat de football, la nature a repris ses droits sur différents terrains, comme celui de l'ancien complexe omnisport de Libreville. Ici, nous avons rendez-vous avec Rémi Ebanaga, le président de l'Association des footballeurs professionnels du Gabon.
Ça ne sert à rien de financer l'infrastructure juste pour jouer une compétition telle que la CAN. Il faut réfléchir plus loin. C'est de se dire, après la CAN, qu'est-ce que cette infrastructure va faire? Va nous ramener comme profit, comme développement. C'est-à-dire, il faut tout un projet autour des infrastructures.
Le débat de la rentabilité de l'héritage des Coupes d'Afrique des Nations au Gabon divise l'opinion. Berlek Lekoba est journaliste sportif.
Quand on regarde ce genre d'infrastructures dans d'autres pays, dans d'autres continents, il y a une auto-rentabilité. À travers le naming, c'est une option à explorer pour permettre à ce genre de structure-là de s'auto-rentabiliser en concédant le nom du stade à une entreprise qui pourra peut-être mettre des moyens pour l'entretien du personnel, de l'espace.
Plusieurs fois sollicité sur la réhabilitation de ces infrastructures sportives, les autorités compétentes n'ont donné aucune suite à notre démarche. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
C'est parti pour la deuxième saison de la Basketball Africa League, l'événement basketball de l'année. La Voix de l'Amérique, en partenariat avec la balle, vous fait découvrir l'événement phare du basket africain. 12 clubs en compétition pour succéder aux Amalek, vainqueurs de la première édition. 38 matchs à disputer dans 3 pays, le Sénégal, l'Égypte et le Rwanda. Retrouvez les matchs en direct, les avant et après matchs, ainsi que des résumés quotidiens sur les ondes de la VOA et sur nos stations partenaires. La Basketball Africa League sur la Voix de l'Amérique, que le meilleur gagne.
Au Cameroun, les femmes et les enfants ont souffert de manière disproportionnée dans le conflit séparatiste qui dure depuis 5 ans. Selon un rapport du groupe de réflexion International Crisis Group, le rôle des femmes est passé de simples victimes à celui de rebelles ou d'artisans de la paix. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, récit de Nanit Talani.
Le conflit séparatiste anglophone dans les régions de l'Ouest a gravement touché les femmes et les a exposées à un risque accru de violence. Dans un rapport publié mercredi, International Crisis Group, basé à Bruxelles, affirme que les femmes ont plus souffert que les hommes depuis le déclenchement du conflit armé en 2017. Harry Elvis Ntui est l'analyste conseil principal à IGC pour le Cameroun.
Certaines violences subies par les femmes incluent l'enlèvement, le viol, la torture et l'exécution. Le conflit a détruit des infrastructures médicales essentielles, privant ainsi les femmes de l'accès à la santé. Cela les a en outre exposées à d'autres maux, comme la traite et l'exploitation sexuelle. Les autorités devraient poursuivre les responsables des crimes et inclure les femmes dans le processus de paix. Les séparatistes doivent veiller à mettre effectivement fin au sabotage des écoles et à la pratique consistante à obliger les femmes à les servir dans leur camp.
Les groupes séparatistes nient avoir abusé des femmes et disent que certaines femmes ont rejoint leurs forces librement. Capo Daniel est le chef adjoint de la défense des forces de défense dites de l'Ambazonie.
Il est regrettable que Crisis Group cible les forces ambazoniennes pour quelque chose qui n'est pas fondé. Il n'y a eu aucune circonstance où on a vu des femmes retenues dans nos camps contre leur gré. Il y a des membres au sein de nos forces qui sont des femmes, qui sont des volontaires.
Les militants des droits humains accusent également les troupes gouvernementales d'abuser des femmes, ce que nient les autorités de Yaoundé. Marie-Thérèse Abena Ondoa est la ministre camerounaise de la promotion de la femme et de la famille.
Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, ainsi que des femmes leaders, se sont mobilisés pour exprimer leur indignation face au meurtre de leurs sœurs et enfants par les sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le gouvernement, lui, a fait de la promotion des droits humains de ses citoyens une préoccupation majeure.
Plus d'un millier de femmes sont allées à Yaoundé en août dernier à une toute première convention de paix afin de tenter de mettre fin au conflit. Elles ont demandé aux rebelles et aux troupes gouvernementales de déposer leurs armes afin que la paix puisse revenir dans les régions en conflit. Mais les combats se sont poursuivis. La violence a éclaté dans les régions anglophones en 2017. Des enseignants et des avocats anglophones dénonçaient leur marginalisation par la majorité francophone. L'armée a répondu par la répression et les séparatistes ont pris les armes. Les Nations Unies indiquent qu'environ 3500 personnes ont été tuées et au moins 700 000 déplacées.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Eric Manirakidza, à la mise en onde de Lionel Gaïma et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.